La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin pour ce moment de culte et ce moment où nous allons vivre un sacrement avec Alain qui est avec nous aujourd'hui qui va recevoir le baptême. Nous sommes toujours extrêmement heureux et émus d'avoir à partager et à présider ces cultes qui sont si importants pour l'accueil de chacun dans cette communauté. Les parcours sont toujours très différents les uns des autres, les rencontres extrêmement riches, et nous sommes très heureux ce matin de pouvoir accueillir Alain. Bienvenue à vous qui l'accompagnez aujourd'hui. Peut-être est-ce la première fois que vous êtes dans le temple de l'Oratoire du Louvre pour un culte. En tout cas, soyez les bienvenus. Sentez-vous ici chez vous. Nous sommes aussi dans une matinée particulière car aujourd'hui, c'est la commémoration d'une date difficile, une date difficile à se souvenir puisqu'il s'agit de la Saint-Barthélemy. Et en même temps, il faut sans doute faire mémoire pour pouvoir comprendre à distance ce que les faits historiques ont pu nous dire des questions de foi et des questions de conflits, des conflits religieux. Les conflits religieux, malheureusement, dans notre société, ne sont pas achevés. Il y en a toujours sur notre planète. Et nous avons sans cesse à remettre sur le métier ce travail d'explication, de commentaires, de compréhension, pour pouvoir peut-être agir autrement, penser autrement la question de la diversité religieuse. Je vous invite pour commencer ce temps de culte à nous réunir avec le premier répond qui se trouve à l'entrée de vos psautiers français, le premier répond pour entrer dans ce temps de culte véritablement tous ensemble dans l'Assemblée. Et je remercie David Cassan, notre organiste qui nous accompagne ce matin. Merci David. Nous louons le Seigneur. Avec cet hymne à l'homme de la voix. Homme de la voix, on te disait prophète, on te disait divin. Tu étais surtout sage et ta foi sur la terre a créé le mouvement qui libère notre vie. Homme du geste, on t'attendait comme roi. On t'attendait comme juge. Tu fus l'homme du pardon. Et devant la femme qu'on menace, tu traces sur la terre les lignes de la grâce. Homme de la foi, on te disait blasphème, on te disait impie. Tu fis jusqu'à la mort ce que ton cœur disait. Ta croix levée scandalise notre esprit. Homme de la résurrection, on te croyait fini, inhumé chez les morts. Tu te lèves et tu sors des tombeaux de nos vies. Avec toi, l'existence devient l'éternité. Homme de l'espérance, on te croyait absent, relégué hors du monde. Tu habites nos consciences et fais naître nos gestes, créateur d'horizons. Fais-nous croire à la vie. Amen. Et je vous invite à chanter votre louange avec le psaume 72, les strophes 1, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir. Voici la volonté de Dieu pour son Fils Jésus. Jésus dit : Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Plaçons-nous devant notre Seigneur avec le psaume premier du psautier. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et redit sans cesse sa loi, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'eau, près des canaux d'eau vive. Il donne du fruit en son temps. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée sur chacun, chacune d'entre nous. Dieu renouvelle pour nous sa grâce et dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. » Je vous invite à vous asseoir. Cher Alain, tu vas être baptisé au nom du Père qui te donne le souffle de vie, au nom du Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi, et qui, dans la foi, t'appelle à son service. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit qui a fait naître en toi la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, qui est de l'eau tout à fait ordinaire, qui aurait pu servir à donner à boire à un ami, à laver les mains d'un enfant, à faire pousser une plante, que sais-je encore, mais avec la parole de Dieu, cette eau tout ordinaire devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu, grâce à la parole et à la foi qui l'accompagne. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour et de sa grâce. Alain, je t'invite à me rejoindre avec les personnes que tu souhaites te voir entourées. Voilà. Alain, est-ce par une démarche de foi que tu demandes le baptême ?
Oui.
Alors je t'invite maintenant à confesser ta foi, à partager ta démarche telle que tu l'as vécue, telle que tu veux la vivre avec nous dans cette communauté, devant l'Assemblée réunie ici, et aussi avec toutes celles et ceux qui sont par Internet avec nous ce matin et que je n'ai pas salué, pardon, voilà, c'est la reprise, le pasteur est un peu rouillé.
Voilà. Merci pasteur. Bonjour à tous. Je m'appelle Alain, je suis né il y a 42 ans en Suisse, d'une mère protestante et d'un père français catholique. Élevé en Suisse dans la tradition protestante d'inspiration zwinglienne, par l'éducation de ma mère, sans en avoir eu conscience à ce moment-là de ma vie. En ce jour de la commémoration de la Saint-Barthélemy, j'ai fait le chemin inverse des Huguenots français, ayant trouvé refuge notamment à Genève pour échapper à l'intolérance. Je suis né à Genève et je suis parti m'installer en Limousin, donc près de Limoges, il y a bientôt 10 ans, pour exploiter un domaine de 32 hectares, donc un domaine agricole. Un retour à la terre après un début de carrière scientifique dans une région, donc le Limousin, qui a vu s'imposer la réforme protestante par Jeanne d'Albret, vicomtesse de Limoges et mère du futur Henri IV. Une ville qui a protégé la communauté calviniste au moment de la Saint-Barthélemy. Dans la Limoges du XXIe siècle, j'ai pris conscience de mon éducation protestante. Le contact avec la nature m'a révélé la beauté du vivant. Puis une succession d'événements tragiques est venue poser la question de la foi. J'ai blâmé la malchance. J'ai blâmé d'autres personnes pour des choix que j'ai cru m'avoir été imposés. J'ai blâmé mon incapacité à trier ce qui était bon de ce qui était mauvais. Je me suis isolé en me disant que l'homme était mauvais par nature. J'ai renoncé à la fraternité. Mais rien de ce qui n'entre dans l'être humain ne peut le souiller, comme le dit l'évangile de Marc au chapitre 7, verset 15. C'est que c'est ce qui sort de l'être humain qui peut le souiller. Ce ne sont pas les actes et les paroles des autres qui ont des conséquences sur ma vie, mais c'est ce que j'en ai fait. À présent, je place ma foi dans notre Seigneur pour m'aider à cheminer, à me libérer. Je crois à l'amour de Dieu, je crois à l'amour fraternel des hommes pour montrer la voie du royaume de Dieu. Je place ma confiance en Dieu pour m'aider. Grâce à sa lumière, le chemin pour me pardonner et pardonner aux autres s'ouvre devant moi. Je demande à continuer de grandir et m'épanouir dans l'amour de Dieu. Je veux continuer à écouter. Je veux apprendre la parole et la mettre en pratique dans ma vie. Je veux partager la lumière de Dieu. Je veux partager la loi de la liberté par l'exemple et en soutenant mon prochain. J'affirme ma foi dans l'esprit du libéralisme théologique protestant. Je reconnais la primauté de la foi sur la doctrine. Je crois à la vocation de l'homme à la liberté. Je crois à la constante nécessité d'une critique réformatrice. J'admets la valeur relative des institutions religieuses. J'affirme mon désir de réaliser une fraternité entre les hommes qui sont, sans distinction, des enfants de Dieu. Je crois en l'Église, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes ses disciples. Il est venu nous chercher. Il est venu chercher ce qui était perdu. Il est venu nous montrer le chemin pour éclairer notre voie avec ses paroles et nous aider à nous libérer pour rejoindre le royaume de Dieu.
Merci. Merci Alain. Alors, nous allons maintenant procéder au baptême. Je vous invite à vous lever en signe de témoignage de ce baptême. Alain, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alain, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Bienvenue.
Alors, Alain, reste là, parce que j'ai quelques mots à dire à cette assemblée. Merci. Oui, oui. Frères et sœurs, voici Alain. Par ce baptême, nous attestons qu'il est enfant de Dieu. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa future épouse, car Alain va bientôt se marier, et à tous ceux qui font partie de son cercle de proches, vous leur donnerez votre prière et votre soutien. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne. Mais si jamais il venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Ce sera ainsi pour lui le signe de l'amour inconditionnel de Dieu vécu par la communauté des chrétiens. Voilà. Bienvenue, Alain. Merci. Et alors, tous nos voeux pour le mariage d'Alain bientôt avec Agnès. Voilà. Je vous invite à regagner votre place. Et peut-être, David, si tu as une petite phrase musicale à nous donner au moment où nous terminons cet acte très émouvant, merci. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, j'ai choisi de partager avec vous un événement raconté dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 14 à 18. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait fixer par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Je vous invite à chanter dans le psautier français, le psaume 91, les strophes 1, 2, 3, 5. Dans le psautier français 91.
Demeure auprès du Seigneur.
Nous prions ensemble. Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois, je sache le dire aux humains. Ô Seigneur, c'est par la beauté que tu révèles ta grandeur. Ô Seigneur, c'est à travers l'humain que tu révèles ton amour. Seigneur, gonfle les ailes de ma foi pour que je puisse prêcher partout le nom de Dieu. Seigneur, délie ma langue pour que je fasse honneur à ton saint nom. Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui l'ignorent ce que tu es, toi, le Père du Fils de Dieu. Cette famille qui fuit le massacre des innocents ressemble à s'y méprendre à celles qui ont tenté de fuir Paris lors de l'incroyable déchaînement de violence de la journée qui reste alors dans les mémoires comme la journée de Saint-Barthélemy, puis qui restera après la Saint-Barthélemy. Et après, que se passe-t-il dans Paris ? Une fois qu'on a jeté les corps à la Seine et qu'ils se sont échoués près de l'île Maquerel, là où le fleuve dessine un coude et où aujourd'hui on peut contempler la tour Eiffel. Comment vivre encore ensemble quand le massacre prend fin? Comment faire encore confiance à son État quand il est devenu meurtrier? Quelle alliance est encore possible, quel pacte entre les citoyens et entre le roi et ses sujets? Pour ajouter à la sidération de cette violence d'État, il faut rappeler qu'elle survient alors que, de façon très inédite dans les monarchies européennes de l'époque, Catherine de Médicis avait décidé, une dizaine d'années auparavant, pour sortir de la première guerre des religions, de promulguer un édit permettant aux protestants et aux catholiques de vivre ensemble dans le même royaume et de partager, pour les personnes de la noblesse, les charges et les honneurs sans considération de leur appartenance religieuse. L'édit d'Amboise était une sorte de traité garantissant la liberté de conscience de chaque sujet du roi. Bien sûr, peut-être pas au sens où nous l'entendrions aujourd'hui, mais cela permettait au moins d'avoir la possibilité de vivre ensemble avec des religions différentes. Catherine de Médicis voulait donc aller plus loin que l'arrêt des hostilités en rédigeant avec Michel de l'Hospital un document qui permettait de tolérer les protestants et de les voir comme de bons citoyens, quand bien même il n'aurait pas la même religion que le roi. Distinguer la religion de la politique semblait la meilleure façon de garantir l'unité d'un royaume. Bien sûr, l'édit était difficile à appliquer et les commissaires qui avaient été nommés pour le faire existaient dans le quotidien des sujets, n'arrivaient que difficilement à faire advenir une justice vivable. Car c'est bien la justice qui seule pouvait empêcher la reprise des combats. Il fallait redonner les lieux de culte aux protestants, tout en ne froissant pas les catholiques qui estimaient que leurs églises avaient été dédiées d'abord à leur culte. Il fallait aussi déterminer si tel meurtre était un fait de guerre ou un fait divers. Et tout cela avec des témoignages difficiles à vérifier. Les critères étaient si difficiles à fixer pour rendre son droit à chacun que les commissaires de la paix civile furent vite bien isolés devant le peu de bonne volonté des deux camps. Mais la volonté du monarque était claire, oublier toute violence et vivre en paix en faisant comme s'il ne s'était rien passé. Alors que ce massacre se soit déclenché avec une si grande cruauté en exterminant de façon systématique les gens de la religion réformée, était une surprise. Qu'était devenu le « comme si » de la paix d'Amboise ? C'est ce « comme si » ici qui est important. Fiction politique par excellence. Il devait permettre de recommencer sur une table rase. Mais les cadavres gisaient bien sous la table. Depuis l'édit d'Amboise, la Ligue catholique s'était organisée pour faire en sorte que les beaux projets pacificateurs de la reine ne s'accomplissent jamais et que les hérétiques soient traités comme tels et ne puissent pas prétendre aux mêmes avantages que les sujets fidèles. Avoir débuté le massacre par l'amiral de Coligny confirme que cette intention dans ce contexte était vraiment l'intention première, puisqu'il représentait à lui seul le symptôme de cette paix mal acquise de la reine. Ce protestant n'était pas seulement toléré, mais il avait ses entrées auprès du roi et lui servait même de conseiller, voire de confident. Et puis le mariage qu'on avait célébré entre un protestant et Marguerite de Valois scellait un peu plus cette mixité convictionnelle dans le royaume. Il est des êtres qui n'aiment pas la paix et préfèrent ensanglanter leur pays au nom de l'unité plutôt que de supporter que ce pays soit divers. Alors, après le mois terrible, que se passe-t-il? Comment fit-on le bilan de la tuerie? Est-il possible de demander, comme 10 ans auparavant, l'oubli et la paix à tout prix? Pouvait-on encore faire comme s'il ne s'était rien passé? Comment se souvenir de ce qui s'apparente à un traumatisme collectif et réussir à faire de nouveau société ensemble? À l'époque moderne, la question s'est posée à de multiples reprises. Après la Shoah, après le génocide du Rwanda, après les massacres de Bosnie, comme le souligne d'ailleurs Patrice Chéreau quand il réalise le film « La reine Margot » et qu'il voit au même moment, dans son temps à lui, l'exhumation des charniers de Timisoara. Quelle mémoire faire des corps et de leur passage par l'inhumain? Rendre la justice? Qui en serait légitime? Se venger, en avait-on encore les moyens? Faire mémoire et demander l'oubli pour la paix? Les générations de rescapés ne pouvaient pas passer si vite sur une telle agression. Jérémy Foa, l'historien auteur du livre « Ceux qui tombent », que je vous recommande vivement, est allé voir dans les archives ce qu'on avait fait au bourreau de la Saint-Barthélemy et comment ils avaient achevé leur propre vie, leur après en quelque sorte. Comme un chasseur de criminels de guerre, il constate rien. Il ne leur est rien
n'arriver. Ils sont morts dans leur lit. Les protestants survivants se réfugient parfois en France, à Sedan, par exemple, comme Bernard Palissy, ou encore à Montargis, où René de France accueille les rescapés. D'autres, évidemment, se réfugient en Angleterre, où la cour a pris le deuil en signe de soutien et accueille celles et ceux qui fuient la France. Aux Pays-Bas et en Allemagne, en Suisse et dans le Palatinat, des communautés de réformés français se forment ainsi en Europe. Et elles seront précieuses pour accueillir les suivants qui fuiront lors de la révocation de l'édit de Nantes. On retrouve ici l'histoire tout à fait biblique d'un peuple en diaspora qui s'installe et accueille ensuite chaque génération quand les troubles du temps le commandent, une sorte de théologie du reste qui continue à vivre. Puisque rien n'est fait cette fois pour établir la paix et que les bourreaux sont honorés et gratifiés par des bénéfices que le pouvoir royal leur octroie pour bons et loyaux services, comme le montrent très clairement les archives, la loyauté et la fidélité jusque-là conservées par les protestants va se muer en une nouvelle vision du pouvoir monarchique. En effet, que peut-être la fidélité au roi ou à la reine quand le monarque assassine ses sujets ? N'a-t-il pas rompu l'alliance qui fait la légitimité même de son pouvoir ? Théodore de Bèze, le successeur de Jean Calvin à Genève, va mettre en question cette alliance. Il soutient un droit à la résistance. Dans son sillage, George Knox soutient la même idée monarchomaque. Dès lors, une tragédie inassimilable va naître une nouvelle pensée politique qui servira sans doute de terreau à des idées contractualistes qu'on trouve chez des philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle. Quand le tyran devient fou, quand le roi devient tyran, le peuple a le droit de lui résister. Aidé des exemples bibliques comme celui de Saül, le roi désiré par le peuple est devenu fou, ou Hérode, le roi paranoïaque qui tue les nouveau-nés pour qu'on ne lui prenne pas sa place, les protestants exilés vont penser la loyauté autrement à partir de la Saint-Barthélemy. Et leur rapport au pouvoir évoluera en faveur d'un contrat, pour eux ancestral. Le roi a mandat de Dieu, peut-être, pour faire le bien de son peuple, sûrement. Et quand ce n'est pas le cas, il faut résister. Aujourd'hui, les idées contractualistes ont fait leur chemin. Les États modernes ne peuvent se penser sans qu'il y ait quelque part ce principe d'un mandat donné pour la sécurité et le bien de ceux qui habitent le même pays, sous le même pouvoir. Mais si sa mise en œuvre démocratique est parfois difficile, il faut avouer que ce chemin a été long. C'est que pour améliorer la vie en société, il faut que chaque génération accepte d'oublier une part de ses difficultés, de ses épreuves et des torts qu'on lui a faits, pour avancer collectivement, comme si chacun avait vraiment sa place, son honneur et sa chance dans le jeu de force qu'est un État. C'est ce comme si qu'il est si difficile parfois de vivre. Les commémorations sont des marqueurs de ces efforts pour réguler cette mémoire collective qui demande parfois qu'on cesse de faire comme si les comptes étaient bien faits, la justice bien rendue sur les crimes du passé et les récits bien réglés entre chaque communauté. Il faut parfois s'arrêter. La commémoration permet cet arrêt sur image qui remet le collectif en phase avec la réalité passée et rappelle que nous faisons comme si et seulement comme si ensemble. Commémorer, c'est accepter de tenir la mémoire pour ce qu'elle est, du passé, et simultanément se souvenir que ce qui a existé a bien existé et que ce n'est pas une fiction, un récit imaginaire, et que le comme-ci de la Concorde n'annule jamais la réalité, mais doit nous la garder présente comme une leçon. Quant au XIXe siècle, on érige le monument qui se trouve au chevet de ce temple. On choisit d'honorer le grand homme, Gaspard de Coligny, en gardant de lui cette phrase gravée sur le monument « J'oublierai bien volontiers toute chose qui touche à mon particulier, soit d'injure ou d'outrage, pourvu qu'en ce qui touche la gloire de Dieu et le repos public, il puisse y avoir sûreté. » Cette phrase rappelle le désir de Gaspard de Coligny d'obtenir la paix civile. Quitte à abandonner toute mémoire des outrages qu'on put lui faire, il acceptait de faire comme si. La tolérance et la paix civile sont à ce prix. Il faut abandonner une part de soi-même pour que le bien de tous puisse exister. On aurait pu ériger un monument montrant le massacre des protestants, mais ça aurait été rouvrir les déchirures du passé, victimiser une communauté aux yeux des autres, et tel n'était pas le but. Il fallait faire mémoire pour faire société ensemble. Et se souvenir des valeurs qui étaient plus fortes que celles de la cruauté. Il valait mieux se souvenir de la hauteur de vue qu'il avait fallu prendre pour continuer l'alliance civile après la Saint-Barthélemy. Quand Joseph rentra dans son pays où on avait voulu le massacrer son enfant, l'Évangile raconte qu'il fut prudent et alla s'établir à Nazareth. Mais il reprit son métier et sa vie de famille, comme si un avenir était possible ici. De cette résilience est né l'enseignement d'un homme nommé Jésus, rescapé et pourtant prophète d'un avenir meilleur. Sans doute, la mémoire dont il était dépositaire ne contenait aucun ressentiment ni aucune haine, sinon il n'aurait pas prêché un tel amour. C'est cet amour que nous annonçons dans nos sacrements, par le baptême, comme ce matin, Alain l'a reçu, et par la communion, telle que nous allons la vivre tout à l'heure, en faisant mémoire du juste qu'on a tué, non pas pour attiser un ressentiment, mais pour mieux avancer ensemble, s'efforcer de faire comme si tout était dans la paix, afin que la paix existe réellement. Avancer ensemble vers une société où la justice soit possible dans la paix. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le choral numéro 1 qui se trouve tout à la fin de vos psautiers, après la longue attente. Et je vous invite à méditer cette attente de la paix ensemble. Voilà, je vous invite à vous asseoir et notre présidente du conseil va partager avec nous les annonces. Aurore, je te laisse la parole.
Merci Béatrice. Bonjour à tous, au nom du conseil presbytéral. Merci d'être venus, même un peu en retard pour certains, parce que beaucoup, le RER était bloqué aujourd'hui. Donc vraiment un grand merci de nous avoir rejoints. Donc vous l'avez compris, c'est une journée que nous avons pris l'habitude de le premier dimanche après la Saint-Barthélemy, donc après le 24 août. Donc aujourd'hui le 25 août, nous passerons marquer une minute de silence devant le monument Coligny tout à l'heure. Donc la grande sacristie étant en travaux. Nous vous demanderons de sortir, on passera par la rue de l'Oratoire directement pour rejoindre le jardin. Donc après le culte, nous irons directement rue de l'Oratoire. Vous suivez, non pas en procession, mais vous suivez quand même Béatrice et puis les conseillers et nous nous retrouvons...
Oh, si c'est pour la paix, on peut.
Dans le jardin, le maire de Paris-Centre, Ariel Veil, nous a déjà déposé une gerbe hier le 24 août. Nous l'en remercions et nous-mêmes, nous déposerons une gerbe avec vous tout à l'heure. Si vous entendez les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois, ne vous fâchez pas, parce que il se trouve que la deuxième DB est en train d'être à Saint-Germain-l'Auxerrois, parce que nous fêtons aussi aujourd'hui la libération de Paris.
Ouais.
Voilà. Donc souriez quand vous entendez les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois, si elles sonnent tout à l'heure. Également, pour information, nous aurons juste terminé normalement à midi quand le drapeau français sera élevé sur la tour Eiffel tout à l'heure en commémoration de la libération de Paris. Voilà, donc tu as parlé de beaucoup d'histoire dans ta prédication, Alain également, parce que de nombreuses régions françaises ont permis quand même que le massacre n'ait pas lieu, et tu l'as rappelé sur Limoges tout à l'heure. Également, vous avez des ouvrages à la librairie sur l'histoire de la Saint-Barthélemy, si vous voulez en savoir plus. Puis il y a le musée du musée du désert.
La librairie, la
société d'histoire du protestantisme.
Pardon,
français. Voilà. Ouais. Donc vraiment, vous avez tout loisir d'essayer d'en savoir plus. C'est important de se souvenir pour transmettre. Également, du coup, je fais la liaison avec l'Assemblée du désert qui aura lieu dimanche prochain. Pour ceux qui ne sont jamais allés à l'Assemblée du désert, et je sais que nombre de protestants n'ont pas encore fait, j'allais dire, ce pèlerinage. Sachez que Béatrice Cléromazir y sera pour l'oratoire dimanche prochain, mais comme nombre de pasteurs de l'Église réformée qui se retrouvent le premier dimanche de septembre à l'Assemblée du désert.
À Mialet dans le Gard.
Nombreux de nos paroissiens y sont également. Donc si vous rejoignez nos paroissiens qui passent l'été et également Béatrice, vraiment, allez la voir, appelez-la, envoyez-lui un email. Il est toujours temps de rejoindre le culte de l'Assemblée du désert dimanche prochain. Tu te souviens qui prêche ? Je l'ai lu il n'y a pas longtemps.
Oui, ça. C'est
une femme.
Attendez, pardon.
Bon, j'ai posé une colle. Voilà, vous pouvez le regarder sur Internet, mais je suis quasiment sûre que c'est une femme dimanche prochain. Voilà, merci à tous, bon dimanche, et puis on se retrouve pour la scène, au cours duquel nous chanterons « À toi la gloire », en répétition de tout à l'heure devant le monument Coligny. Merci beaucoup, c'est le moment de l'offrande. L'oratoire ne vit que du don pour... S'il vous plaît, donc, aidez à continuer à transmettre cette culture que nous avons de liberté et d'inclusion. Merci à tous.
Merci.
Et Paul me souffle que c'est Ingrid Pratt qui prêche dimanche prochain.
Je vous invite à vous lever. Et je vous invite à louer le Seigneur pour entrer dans ce temps de la scène que nous allons partager. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions ensemble. Invités à cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont pris dans des conflits d'ordre religieux et qui risquent leur vie parce que leur foi est différente de celle de la majorité dans leur état, de celle du pouvoir là où ils vivent. Éternel, nous te remettons toutes celles et ceux qui sont obligés de fuir partout sur notre planète. Des hommes, des femmes et des enfants passent les frontières clandestinement pour arriver à trouver la paix et le repos dans un endroit où on n'attendra pas à leur vie. Nous te demandons, Seigneur, que nous soyons porteurs de cette paix, porteurs de cette sécurité pour tous ces êtres vivants qui sont menacés dans leur vie. Éternel, nous te présentons tous les enfants qui sont pris dans les conflits armés et qui ont peur continuellement et dont le quotidien n'est fait que de peur. permet que nous soyons de ceux qui accueillent, de ceux qui soutiennent la démocratie, de ceux qui soutiennent la justice et la paix. Éternel, bénis toutes celles et ceux qui sont artisans de paix sur la terre, qui risquent leur vie pour pouvoir venir en secours à ceux que l'on n'entend plus, que personne ne peut défendre. Éternel, bénis-les et permets que quand tu nous appelles, nous soyons de ceux-là. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes toutes et tous invités au repas du Seigneur. Ce n'est pas l'Église qui vous convie, c'est le Seigneur lui-même qui vous invite à sa table. Que personne ne se sente ici exclu de ce moment de partage et de communion. Vous êtes toutes et tous invités. Je vous invite à former un cercle autour de ce temple et que nous puissions communier ensemble. Alors, en bon démocrate, nous allons dire, nous ne voulons voir qu'une seule ligne. Voilà, alors si vous voulez bien descendre des marches et faire une seule ligne, quitte à vous décaler, même si vous n'êtes plus en face du rang que vous occupiez en vous asseyant, ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez. Alors, attendez. Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus, le crucifié. Le vin que nous partageons est le mémorial du sang du Christ, le ressuscité. Je vous invite à communier tous ensemble. Et nous pouvons chanter ensemble le cantique de résurrection « À toi la gloire », le cantique 150 dans les louanges et prières pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Frères et sœurs, nous avons vécu ce moment ensemble. Nous sommes ici dans une halte et dans une bulle de paix. Que cette paix-là, vous alliez l'annoncer à l'extérieur du temple. Que vous alliez dire à vos contemporains que l'amour du prochain est toujours possible. Que la compréhension entre les êtres humains est toujours possible. Que la foi en l'autre doit être sans cesse renouvelée. Et vous serez ainsi les porteurs de l'amour du Christ. Vous serez ainsi les signes de sa présence dans ce monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui nous fait grâce, renouvelle sa grâce et vous bénit. Amen. Et je vous invite maintenant à sortir par la grande porte du temple. Je remercie encore David pour son accompagnement. Et nous irons auprès du monument pour la Saint-Barthélemy.